là, chers auditeurs de Rencontres Lusophones, soyez les bienvenus dans cette émission produite par Radio Résonance et émise sur la fréquence 96.9 de Radio Résonance Bourges et sur celle de Radio Avalon 105.2 le samedi matin de 11 à 12. L'émission de ce soir va vous être présentée par le grand Jeff et pour la petite chronique par une petite nouvelle que je vous présenterai dans quelques instants. Je vous salue donc tous, que vous nous écoutiez de France, des États-Unis, du Mexique ou d'Allemagne, où vous êtes déjà particulièrement nombreux. Continuez comme ça, on vous en remercie. Et on fait un petit coucou à Manu, qui ce soir est confiné, comme nous tous d'ailleurs, non ? Bonsoir Jeff !
Bonsoir à tous, bonsoir à toutes !
Toi aussi t'es confiné, attention, pas de jeu de mots pourris
non,
avec
non,
le mot confiné.
Non, je fais rien.
Bon, ce soir Jeff, c'est toi qui en partie a bossé sur l'émission. Tu peux nous raconter un peu ce que tu as préparé pour la chronique culturelle de ce soir ?
Oui, bah, c'est un film, effectivement, Menina da Radio, et je parle des origines de la radio, et des conséquences et des influences sur le monde, sur le peuple.
Et la musique qui va avec, évidemment.
Et la musique du film, évidemment, qui est très chargée.
Très bien. Alors ça, ce sera dans une petite quinzaine de minutes, parce que pour l'instant, place à la petite chronique. Et ce soir, ce n'est pas moi qui la ferai, non. C'est une petite nouvelle, on va dire que pour l'instant, elle sera chroniqueuse dans notre émission. Elle s'appelle Martine, elle habite l'Alsace, et plus exactement la ville de Saint-Louis dans le Haut-Rhin. Elle est passionnée de lusophonie. Et lorsqu'il y a 3 mois, on avait lancé un appel à candidature pour intégrer notre équipe, eh bien, elle nous a répondu en nous disant qu'elle voulait bien se laisser tenter par l'aventure. Ce soir, elle tente le grand saut, puisqu'elle nous présente sa première petite chronique, mais en distanciel, puisque c'est dans l'air du temps. Cette petite chronique va nous permettre de commencer à la connaître un peu, parce qu'elle va nous parler de ses origines alsaciennes, qu'elle a mis en parallèle avec le mirandais. Cette langue qui ressemble à s'y méprendre, au portugais et au castillan, et que l'on parle dans la région de Tlazoujmantj. Après cette petite chronique, elle nous propose une chanson en mirandais, évidemment, et à la fin, un petit clin d'œil très rigolo, vous verrez. On y va, Jeff ?
Bora !
Résonance 96.9.
Tu rencontres lusophone, on n'est pas à l'abri d'un coup de gueule ou d'un coup de cœur. C'est la petite chronique.
Dès mon plus jeune âge, j'ai eu l'opportunité de parler un dialecte allemand, de m'affirmer bilingue et de maîtriser plus tard 2 autres langues étrangères. Voilà pourquoi j'ai choisi le thème du dialecte et du bilinguisme à travers l'Europe. Mais tout d'abord, parlons de la langue française. Tout au long de l'histoire de la France, les autorités politiques se sont servies de la langue française comme instrument au service du pouvoir. C'était initialement la langue du roi. Ceux qui dirigeaient alors le pays ont longtemps cherché à empêcher les habitants d'utiliser leur parler régional. D'après une liste établie par Bernard Carquiglini en 1999, la France dénombre environ 75 langues, patois et dialectes confondus. Pour vous citer les plus connus comme le breton, le basque, l'alsacien, le corse et j'en passe. Mais y a-t-il une différence entre patois et dialecte ? Je dirais qu'un dialecte est considéré comme langue mère et rattaché à une zone géographique. Tandis qu'un patois, lui, fait référence à une variété pratiquée dans une zone réduite et rurale. Native d'Alsace, j'ai la chance d'avoir reçu une éducation bilingue. De ce fait, je maîtrise le dialecte alsacien ou Elsässerdeutsch ainsi que l'allemand standard que l'on nomme Hochdeutsch. D'ailleurs, on parlera plutôt de dialecte pour l'alsacien plutôt que patois, cette distinction étant conditionnée par des facteurs historiques. Depuis fort longtemps, l'Alsace fut l'enjeu de bien des guerres. À partir du IVe siècle, les Alamans et les Francs se sont installés en Alsace, ce qui forcément a entraîné la disparition de la langue gallo-romaine. Plus tard, sous l'impulsion du XVIe siècle et de Martin Luther, théologien et initiateur du protestantisme, que le Hochdeutsch s'imposera en Alsace comme langue écrite et orale. Il fut le traducteur de la Bible en allemand. Après la guerre de 30 ans, l'Alsace sera annexée à la France. C'est pourquoi le français comme le latin sera le plus souvent parlé par le clergé et la haute société. La guerre franco-allemande de 1870 change la donne cette fois-ci. L'Alsace redeviendra allemande. L'allemand standard et le dialecte alsacien entreront à nouveau en vigueur. À l'issue de la Première Guerre mondiale, l'Alsace passe au statut français et bien évidemment se pratique à nouveau la langue française. Hélas, durant la Deuxième Guerre mondiale, l'Alsace sera à nouveau rattachée à l'Allemagne. Période très difficile car tout doit être germanisé jusque dans les noms de famille. Durant tous ces siècles de déchirement, l'Alsacien était donc tantôt français, tantôt allemand. Et pourtant, après la victoire de la France sur l'Allemagne, un complexe d'infériorité alsacien émergera en 1945. Dès lors, l'allemand standard ainsi que l'alsacien sera exclu des écoles, limité dans la presse et étudié comme langue étrangère. Les élèves iront jusqu'à se faire punir s'ils communiquent entre eux en alsacien dans les cours d'école. En 1992, le Conseil régional d'Alsace, en partenariat avec l'éducation nationale, opte pour la mise en place d'un enseignement bilingue français-allemand. Ceci pour tenter de ne pas perdre notre patrimoine culturel. Mais qu'en est-il de la situation des dialectes dans nos pays voisins ? Vous savez très bien qu'un grand nombre de dialectes sont encore présents en Italie et la péninsule ibérique. Ils sont encore nombreux dans bien des pays européens. Étant une grande passionnée de la langue portugaise et de la culture lusophone, c'est du Portugal que je vais vous parler. Dans ce pays, la plupart des Portugais ou lusophones parlent leur langue maternelle, c'est-à-dire la langue de Camões. Celle-ci appartient à la branche romane des langues indo-européennes. C'est en 1139, sous le roi Afonso Ier, que le Portugal devient royaume indépendant avec le royaume de Léon. En 1290, le roi Diniche Ier du Portugal crée la première université portugaise à Lisbonne. À ce moment-là, il décrétera que le portugais deviendra langue officielle. Le portugais occupe la 6e place des langues les plus parlées dans le monde, en tenant bien sûr compte du nombre de personnes dont c'est la langue maternelle. À ce jour, il existe 10 dialectes portugais, sans oublier de citer les langues dérivées comme les créoles à base portugaise. Récemment de passage dans le nord-est du Portugal, j'ai découvert l'existence d'une langue bien différente au portugais. C'était du mirandais. Cette langue romane correspond à une variété d'asturien proche de l'espagnol. Le mirandais fut la langue du royaume de Léon, écrite jusqu'au XIVe siècle à côté du galicien portugais. Très longtemps, jusqu'à une date récente, le mirandais fut tenu pour une langue de paysans ignorants. Ce dialecte purement oral n'avait aucune reconnaissance officielle. Entre le 15e et 16e siècle, le clergé tenta même de convaincre, puis de contraindre le peuple à prier en langue portugaise. Ce n'est qu'à la fin du 19e siècle, par José Leite de Vasconcelos, linguiste et ethnographe, que le mirandais a été identifié comme une langue distincte du portugais. Géographiquement, le mirandais est parlé sur une petite superficie d'à peine 500 km², plus précisément dans les municipalités de Miranda de Douro, Sendim, les villages proches de Vinhoso, Melgadouro, Bragança, dans l'extrême nord-est du Portugal, dans la région entre les vallées du fleuve Douro et Sabor. On estime que le nombre de locuteurs n'excède pas les 6000 à 10000 personnes. Cet idiome peine face au vieillissement démographique, à l'exode rural et au chômage de la région. Toutefois, le 29 janvier 1999, le mirandais prend la statue de seconde langue officielle du Portugal. Cette co-officialité s'applique en principe dans l'administration locale, dans les organismes publics du territoire du Traços Montes. Le mirandais est d'ailleurs enseigné en option dans les écoles de la région depuis 1986 par l'autorisation du ministère de l'Éducation. Une étude a été conduite en 2001 sur 2% de la population. Elle a montré que près de 90% de la population comprenait le mirandais et seulement 60% la parlait. Il en est aussi sorti de cette observation que la population trouvait important de transmettre cette richesse. Contradictoirement, la majorité des enquêtés ne parlent plus le dialecte avec leurs propres enfants. Une enquête similaire a été menée en Alsace en 2001 et les chiffres sont quasiment les mêmes. Il en va donc de la survie de nos dialectes, véritable patrimoine linguistique et culturel. Mais comment le préserver ? C'est une difficile tâche. Le bilinguisme est une grande chance pour les enfants. Dès le plus jeune âge, les enfants assimilent plusieurs langues simultanément sans le moindre problème. N'hésitez pas un instant et sans aucune appréhension à leur parler le dialecte de votre région ainsi que votre langue maternelle. Cela ne pourra leur être que bénéfique et leur ouvrir plus facilement les portes sur le monde du travail. De cette manière, l'identité culturelle régionale pourrait être préservée. À ce sujet, j'ai réussi à transmettre l'alsacien à mes enfants et j'en suis fort contente. Mon petit-fils, âgé d'à peine 2 ans, baigne également dans ce dialecte. Il différencie déjà très bien le français de l'alsacien. Encore mieux, et ce sera mon mot de la fin. Tous les mercredis, je lui raconte des comptines en portugais. Et je reste persuadée qu'un jour, mon petit-fils parlera sans aucun complexe toutes les langues.
O Maria Faia, ninguém nome te de o punir. O Maria Faia, o Faia Maria. Grabo no que tu chos roja, o Maria Faia. E roja no que tu chos flor, o Maria Faia, o Faia Maria. Oh Marifaia, que te estou a engrandecer. Oh Marifaia, oh Faia Maria. Chamo-te antes espelho. Oh Marifaia, onde espero de te ver. Oh Marifaia.
Les copains,
moi je sais parler toutes les langues, moi je sais parler les langues du monde entier, j'en savais rien, mais maintenant que tu le dis, c'est enfantin, ça va changer ma vie.
C'est l'heure de la chronique culturelle
de Rencontre Lusophone.
Aujourd'hui, je vais vous parler de Méninade à radio en 1944 de Arthur Duarte, produit par la compagnie portugaise de films, et la musique est de Antonio Melo et Jem Mendes. Une émission plutôt cool, sans trop de paroles, ce que j'ai tendance à faire en temps normal. Beaucoup de musique donc, et de chansons, car le film en est très fourni et riche. Pas une émission pour se faire plaisir, sans être trop intellectuel. Voici le générique. Le film Méninade à radio met en lumière les plus grands artistes portugais de films de l'époque. Maria Matos, 8 films en tout, dont Costa de Castelo. Antonio Silva, 48 films, dont Costa de Castelo, Cansao de Lisboa, Oleao de Astrela, O Grande Elias, Patio das Cantigas, Amor de Perdição, João Ratao, Maria Papuala, etc. Maria Eugenia, 7 films dont O Leão de Estrela. Francisco Ribeiro, 17 films dont O Grande Elias, Patio das Cantigas, O Pai Tirano. Oscar de Lemos, 11 films dont João Ratao, Amor de Perdição, Aldeia da Rupa Branca, Cansao da Terra. Teresa Casal, 9 films dont João Ratao, Costa de Castelo. Les habitués de l'émission se rappelleront que j'ai déjà traité plusieurs de ces grands films, à retrouver en podcast pour ceux que ça intéresse. Comme on peut le constater, ils ont tous participé au même film, ils se connaissent tous, tous sont aimés du public portugais. Bon, venons-en au film. On peut entendre dans le magasin un air qui passe à la radio en fond sonore. Un super tube que vous avez déjà entendu dans Costa de Castelo, justement. Il s'agit bien sûr de Cantiga da Rua. Je ne résiste pas au plaisir de vous en remettre une couche, un rappel qui, je l'espère, vous plaira, car pour moi, c'est un must, une chanson que j'adore. J'adore aussi le film, bien sûr, Costa de Castelo. J'ai toujours plaisir à le voir ou à le revoir, même s'il est en portugais. C'est trop bon. Thank you. l'un des principaux protagonistes du film, Antonio Silva, lui a valu un prix décerné par le Secrétariat national de l'information. Il joue le rôle de Cipriano Lopes, l'orgueilleux propriétaire de la pâtisserie Bijoux dans un quartier de Lisbonne. C'est un passionné de progrès et il rêve de créer une radio amateur dans son quartier, le Radio Club of Stars, moyen de communication représentant l'une des icônes de la symbologie dans la société. Et où sa fille pourrait montrer ses talents de chanteuse et Oscar sa maestria de compositeur. Mais entre colère et jalousie, tout va se compliquer dans le quartier et à la radio. Son père désire mettre sa fille adorée, Maria Eugenia, en vedette chanteuse, car il faut préciser qu'elle a un très joli brin de voix. Écoutons-la.
Te vi y fico doido barrido por ti. Desde então a toda hora tenho por ti sonhos sem fim. Eu deixei de ser senhora de mim. Primeiro sonho. Apetece agarrar para ver se é verdade ou mentira. Vive dos anseios constantes de um lar, com alegres bênçãos na paz do Senhor. Não se pode exprimir, mas apenas sentir. O primeiro sonho dos sonhos de amor.
Maria Eugenia est amoureuse d'un jeune homme, Oscar, musicien très doué, que Cipriano décide d'inclure dans l'aventure radiophonique afin qu'il compose les musiques des chansons que Maria Eugenia interprétera. Les amoureux partagent le goût de la musique que partage Cipriano, mais Rosa Goncalves, la mère d'Oscar, déteste. C'est donc l'histoire d'une future star de la radio dans un quartier typique de Lisbonne.
O meu coração dormido acordou quando te vi. E ficou doido, varrido por ti. Desde então a toda hora tenho por ti sonhos sem fim. E eu deixei de ser senhora de mim. O primeiro sonho dos sonhos de amor. Peregrino dom de quem cisma e suspira, estrelinha a brilhar que apetece agarrar para ver se é verdade ou mentira. Vive dos anseios. Bênçãos na paz do Senhor. Não se pode exprimir, mas apenas sentir. O primeiro sonho dos sonhos de amor. Não pretendo mais que ter Più che ninna casa poi, onde possamos caber os dois. E se ali como prevemos, formos três alguma vez, mais quentinhos viveremos os três. O primeiro sonho dos sonhos de amor, peregrino do apetece agarrar para ver se é verdade ou mentira. Vive dos anseios constantes do mar, com alegres bênçãos na paz do Senhor. Não se pode exprimir, mas apenas sentir o primeiro sonho dos sonhos de amor.
Outre le projet de fondation d'une station de radio, un autre événement marque Cipriano. L'avancement de sa posture en tant qu'homme vivant, avec sa trajectoire de vie et l'amour nourri, amour de jeunesse, envers Donna Rosa Maria Matos, apparemment révélateur et motif d'irritation pour Cipriano, qui plus tard découvrira dans la mégère domptée l'amour. Mère de son futur gendre, vous avez aussi les mêmes sentiments, quelque chose qui changera en fonction de l'enchaînement des événements.
Fernando Verdial.
Nada mais seduz do que sonho por amor. Todo sonho é luz que se deve proteger. É dos bens o bem maior, o maior e sem favor, pois não sonhar é ter vida e não viver. Lindo altar florido, onde a alma vai rezar, só no sonho é que há lenitivo para a dor. Verbo ser e verbo amar só os pode interpretar. Quem houver sentido algum sonho por amor.
La situation se complique lorsque Rosa se rend compte du projet radiophonique et décide de le saboter avec l'aide des autres commerçants. L'entrée en scène du chanteur Fernando Verdial et de Teresa Valdemar, vedette de la station nationale, vient également déstabiliser les plans de Cipriano. Voici maintenant une marche de bonne facture. Écoutons.
O nosso bairro é de todos o melhor, quer seja o Fano ou a velha Madragoa.
Uma capela e 10 casas em redor valem para nós toda a beleza de Lisboa.
Eu acredito que outro exista na cidade bem mais bonito, mas no meu tenho vaidade.
Será modesto, mas risonho ainda não vi para que alguém trate de resto o lindo bairro onde eu nasci.
Eu acredito que não existe na cidade, é mais bonito,
mas a dobreza dá tristeza cá para mim. O nosso bairro tem mais cor e alegria.
Pode ser feio de vielas tortuosas, porém não creio que haja ruas mais formosas.
É pobrezinho, mas nas suas dimensões,
sim, senhor,
como nenhum.
Batista do Ovo está a sair-se bem da coisa.
Pode ser feio de vielas tortuosas, porém não creio que haja ruas mais formosas. É pobrezinho, mas nas suas dimensões, aconchinado como nenhum, só caibam os botões.
Il y a aussi des concours de chant à la radio. Oh, voici quelques extraits.
Vigne dos anseios constantes de um lar, com alegres bênçãos na paz do Senhor, não se pode exprimir, mas apenas sei. Primeiro sonho dos sonhos de amor. Se vocês confiam nos sonhos de amor, cá por mim não quero ser contra vocês. Mas não sei o que é sonhar e quiser aprovar, pelo menos somente uma vez. O sonho consiste em cantar, dar em cada samba mais graça e mais cor. Mas não vejo razão para dizer-vos que não, se vocês confiam em sonhos de amor.
Des jeunes filles sortent en courant du cours. Et voici un morceau que j'affectionne particulièrement. Ça bouge. Une vraie comédie à la portugaise, faite de jeux de rivalité, de jalousie, de quiproquo aussi, de rencontres bien sûr et de dialogues très savoureux. Une comédie portugaise typique dans laquelle est introduit un élément nouveau, la radio, en grande expansion à l'époque au Portugal. Arthur Duarte était l'un des plus grands noms de la comédie dite populiste des années 40, bien illustré dans des œuvres comme Costa de Castelo, Oleão da Estrela ou Grande Elias. En 44, il signa l'un de ses plus grands succès, La fille de la radio, Menina da Radio, avec la collaboration habituelle de João Bastos dans le scénario et les dialogues. Encore une histoire amusante de petites rivalités, de jalousie, d'envie et de déception, dans un quartier typique de Lisbonne, qui se soumettait au charme de la radio, des chansons et des amours croisés, et pas toujours confessés. Une grande réalisation de Duarte, appuyée par l'excellente photographie d'Aquilino Mendes, maintenant extraordinairement appréciée par le magnifique travail de restauration et servie par un casting remarquable, d'Antonio Silva à Manuel Santos Carvalho, en passant par Maria Mateos, Maria Eugenia et Ribeirinho.
Noite tropical, serena e fatal, de estranho mistério. A lua no mar contempla cismar o seu vasto império. Apenas da lei um murmúrio vai do negro arvoreiro. Fugidi as águas contam suas mágoas à terra em segredo. Descem as ondas na praia com a espuma e o luar. Os meus decidem cambraia com que as ninfas vão noivar. E a palmeira em gestos lentos põe na brisa um doce olor que há nos teus lábios sedentos e palpita. Aspetos risonhos, os teus sons embalam e as estrelas falam de encantados sonhos. Noite tropical, tua luz astral, luz indefinida. Que tudo esqueça e o corpo adormeça para além da vida. Onde gema a voz distante do mestiço trovador.
En regardant Miss Radio, on est envoyé dans l'ambiance des romans et des films classiques sur les querelles d'amour et les fins heureuses. Dans chaque récit, nous trouvons un lien unificateur de ces personnes dans des conflits personnels. Dans cette production d'une cinématographie dont nous parlons beaucoup moins que les Espagnols, Français et Italiens, l'amour est dans l'air, en particulier dans les ondes radio, à travers beaucoup de musique. Véhicule pour les chanteurs mondialement connus, la radio a toujours été un moyen abordable économiquement, capable d'atteindre directement les populations à haut et bas revenus, c'est-à-dire les cadres de Wall Street et les blanchisseries des quartiers populaires.
Eu nasci pra ti e tu pra mim.
E os dois assim formam só.
Quando eu digo sim, tu dizes sim.
E com sim, demos o nó.
Se ele riu, riu por cem.
Canta ela, canto também.
Dá uma topada e eu grito, ai!
Sinto ela pancada quando ela cai.
Se me pede um beijo de dois,
quero ver logo outro depois.
És o meu amor
e o mundo diz:
não, que bolas infeliz.
Senhor Fernando, chama-me ao telefone. Com licença.
Quand le film Menina da Radio est sorti, les spectateurs et les personnages du film étaient déjà plongés dans ce qu'il était convenu d'appeler la culture de l'image. Mais pourtant, la radio occupait son rôle à l'aube de l'imagination, était un moyen de communication géographiquement large en termes de portée et apportait à ses consommateurs un langage direct, familier, ainsi que persuasion et intimisme, éléments qui ont fait de la radio un moyen pertinent, encore de nos jours, sans date de péremption fixée.
No azul do céu, ao contemplar o fogaréu da luz solar, vejo a fina que a mão de Deus apôs tal qual nos olhos teus, e fico a que vi é do astro rei o bem de ti.
Sim, senhor. Que dizes tu a isto, hã?
Não é mal, escapa.
Escapa? Esquipa, digo eu. E não é favor.
Shhh. Passa bem.
A luz que vi é do astro rei, ou bem de ti.
Réalisée par Arthur Duarte, La fille de la radio a été conçue sur la base du script écrit par João Bastos, Fernando Fragoso et Silvia Tavares. Dynamique, rapide et pratique, la radio emballait la vie quotidienne des gens et apportait du journalisme, de la publicité et de la musique pour combler le temps de ceux qui vivaient à une époque antérieure à l'avènement des réseaux sociaux. Nié par l'interdiction familiale presque shakespearienne dans la jeunesse, le nouveau couple apparaît dans le sillage de la Radio Star Club, allégorie cinématographique pour le développement et l'expansion du milieu radiophonique au Portugal. Unis par le goût musical, Lopes et Dona Rosa vivent dans une société qui reflète les impacts de la modernité, époque préalable à l'avènement de la télévision. Avec du contenu similaire à ce que les programmes télévisés feront par la suite, la radio fonctionnait comme divertissement et information. Sorti en 1944, La fille de la radio est un film appelé Âge d'or du cinéma du Portugal, une cinématographie qui, comme souligné dans les premiers mots du texte, est peu commun pour les Brésiliens, malgré la relative similitude linguistique de ses productions par rapport à leur cinéma, plus actif, industriel et esthétiquement multiple. Grâce à la conduite musicale de Jim Mendes et Fernando de Carvalho, ce film suit la lettre de base des drames classiques, avec des cadres alignés sur des normes, sans audace narrative, comme son scénario, une histoire simple sur l'amour et ses revers, imprégnée d'un sous-texte plus intéressant que le film lui-même. Un peu d'histoire maintenant sur la radio. Radio Hertz fut créée en 1914 à Lisbonne. Jusqu'en 1925, les émissions sont diffusées dans des circonstances très particulières. Parfois, elles sont diffusées à partir d'une pièce ou d'installations improvisées. Elles étaient transmises la nuit, quand l'aficionado, enfin l'auditeur, était disponible. Les émissions dépendaient également de l'investissement privé sur l'équipement destiné à l'émission, et aux auditeurs avec la réception, bien sûr. Les premières émissions régulières ont lieu le 25 octobre 1925. L'État s'inquiète de la radio en 1930 et réclame le monopole des services de radiotélégraphie, de radiotéléphonie, de radio et de télévision. L'administration générale des services de radio électrique est créée. Elle dépend du CTT. Après l'initiative législative de 1930, l'État s'intéresse de nouveau à la radio 3 ans plus tard et encourage la création d'Emissora Nacional, dont la première a eu lieu le 1er août 1935. Comme beaucoup d'autres pays en Europe, le nouvel État, l'Estado Novo, réalise le potentiel du nouveau média. Emissora Nacional est, depuis des décennies, le principal moyen de communication publique du régime. La radio a commencé à montrer le potentiel de ses capacités expressives dans la décennie des années 50 et est devenue le moyen de communication dominant. En 1950, le théâtre de la radio prend une forme populaire et commerciale avec l'apparition du célèbre feuilleton Tide. 2 ans plus tard, apparurent les radios comédias. La radio a servi de distraction pour la population et le principal objectif de la programmation était le divertissement. La première étape de la radio, la phase de divertissement, basée sur les émissions directes, a été suivie par le cycle de création de programmes d'émissions de disques et de conférences entre 2 annonceurs, ainsi que des programmes humoristiques. Des émissions telles que Voz dos Ridiculos, Parada da Parodia et Grasa con Todos étaient parmi les programmes de radio nationaux les plus célèbres et le feuilleton le plus réussi était The Strength of Destiny, A Forza do Destino. Parallèlement, des programmes où les auditeurs demandaient des disques sont nés, comme l'omniprésent When the Phone Rings, Quando o Telefone Toca, étaient diffusés dans différentes émissions sur de nombreuses stations commerciales. L'impact croissant de la télévision, qui s'est accentué à la fin des années 60, a amené la radio à adopter de nouveaux formats et à se moderniser. Radio Universidad, qui a attiré de jeunes étudiants, a été l'outil de formation pour la majorité des nouveaux professionnels et il a lancé un mouvement de réforme qui s'est étendu partout. Les émissions nocturnes des stations commerciales, qui avaient alors commencé à diffuser 24 heures par jour, ont été les premières à marquer le changement vers des formats plus informels, de nouvelles tendances musicales et l'introduction de thèmes d'intérêt social. Le deuxième modèle de présentateur s'est terminé. Le nouveau présentateur, qui était aussi le réalisateur, s'est adressé directement à ses auditeurs pendant que le début et la fin des pistes musicales jouaient en arrière-plan. La radio du 25 avril. Le rôle de commandement de la radio sur les événements politiques du 25 avril 1974 atteste de façon exemplaire l'impact qu'elle a eu comme moyen de communication publique dominante. Dans les années 30, quand la création d'Emisora Nacional était sur la table, on disait que la radio pouvait être l'instrument le plus démocratique du monde parce qu'elle éduquait les gens et qu'elle pouvait atteindre tout le monde et partout. La vérité est que la radio a cherché l'interactivité depuis ses débuts. Par rapport aux autres médias, la radio est un média moins cher, donc plus libre. Compte tenu du fait que les coûts d'installation, de production et de maintenance sont inférieurs à ceux des autres médias de communication de masse, la radio peut accueillir la pluralité des opinions et une représentation idéologique plus large. Au Portugal, le succès passe par des programmes qui établissent le lien entre le domaine public et le domaine privé, permettant l'expression de voix dissidentes sur les questions publiques. Ce qui ne peut être ignoré, c'est que, malgré le fait que les programmes d'antenne à réseau ouvert permettent aux auditeurs d'exprimer leur opinion, la situation qui leur est donnée par la station obéit à des règles et à un thème prédéterminé. Pourtant, la radio, pour donner à ses invités et auditeurs la possibilité de changer les idées entre eux, peut dépasser les médias nationaux restants, affirmant le principe d'opinion égalitaire. Par ailleurs, d'autres expériences et opinions valables sont confrontées à la vision du spécialiste, permettant la pluralité des opinions de groupe et l'expression de positions individuelles. Ce type de programme d'antenne à réseau ouvert fonctionne comme une tribune pour défier les conceptions dominantes et comme un tribunal pour les groupes sous-représentés dans les médias qui, de cette façon, peuvent donner leur contribution aux questions publiques les plus importantes. Sur TSF, les programmes TSF Forum et Brancada Central sont de bons exemples du passage du modèle de communication dialogique qui dépasse le système de réception passive de la radio. Selon les études, il est prouvé que ces programmes stimulent la communication politique et promeuvent la libre expression, à savoir pour les questions civiques et politiques. Ce sont des programmes qui permettent aux citoyens de profiter d'un espace de débat où le bon sens est qualifié de connaissance réelle car il est basé sur l'expérience. Il se différencie des connaissances des experts. La radio, visant à donner une voix aux gens, présente deux grands avantages. Elle est plus entendue que les journaux sont lus, et il devient plus facile de prendre le téléphone et d'appeler la salle de rédaction que de donner votre avis écrit et de l'envoyer aux journaux. Les débats médiatisés à la radio, en plus de se présenter comme un point de rencontre où le public peut changer d'idée, constituent une excellente base pour la représentation sociale. Ils se positionnent comme des espaces de débat dans lesquels les gens peuvent défendre leurs idées, constituant un facteur crucial pour la construction d'une identité culturelle. Et voilà, c'est fini. Voici le générique de fin.
Thank you. Un maximum de musique. Un maximum de son.
96.9. C'est Radio Résonance.
Et voilà, très chers auditeurs, notre émission se termine. Merci pour votre écoute. On revient évidemment la semaine prochaine pour d'autres rencontres lusophones. Bravo encore à Martine pour sa première participation. Je vous embrasse.
Et oui, ainsi se terminent vos rencontres lusophones de ce soir. On revient évidemment samedi prochain à la même heure pour d'autres sujets, d'autres humeurs et d'autres animateurs. N'oubliez pas le podcast de cette émission qui sera dans quelques minutes sur la page de Radio Résonance ainsi que sur notre page radio qui porte le nom de notre émission Rencontre lusophone au pluriel. Bon week-end à tous. À tes mâches.
Servir, caguei os cursos de me aproximar.